que les garçons étaient plus serviables que d'habitude. Les petites filles aidaient leur maman à la cuisine, en apprenant en même temps des recettes transmises jalousement de génération en génération. Papa, enfin, est resté à son travail jusqu'au dernier moment et, à peine arrivé, doit régler 1000 problèmes matériels. Tout le monde était en agitation, car le temps passé est pressé et il fallait tout boucler avant ce soir même. Demain seulement, on pourra enfin s'asseoir tranquillement devant une table bien parée, entourée de toute la famille. Encore une autre magnifique fête de Noël. Tout cela est important, nécessaire même, en quelque sorte. Et à juste titre, on se sent bien quand notre travail de quelques jours est récompensé. Et pourtant, tout en préparant la fête de la famille bien légitime, il ne fallait pas perdre de vue la raison de cette fête. Marthe, Marthe, a dit notre Seigneur, vous vous inquiétez et vous agitez pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. La chose qui nous manque souvent, celle qui devrait animer nos tâches, ce sont nos sentiments, nos occupations intérieures. Mais pour trouver ce trésor, ce unum necessarium, il nous faut un guide, en fait une guide, la même qui nous a conduits à cette fête de Noël pendant tout l'Avent. C'est bien sûr l'Immaculé. L'évangéliste saint Luc termine ainsi l'histoire de la naissance du Sauveur. Marie conservait toutes ces choses et les méditait dans son cœur. Demandons-lui donc de nous soulever un coin du voile de son cœur qui cache des mystères divins. Accompagnons-la sur la route vers Bethléem, il y a 2000 ans, jusqu'à la grotte. Dans un petit coin de la terre, oublié de tous, à Bethléem, le soir touche à sa fin. Un couple de pauvres gens cherche en vain un logement. Il n'y a plus de place pour eux. En fait, les hommes les plus importants, ce sont les officiers impériaux, préposés au dénombrement. Les visiteurs aisés réclament ce que les autres peuvent offrir de meilleur. Chacun est occupé, et ce couple obscur de Nazareth, ce charpentier de Galilée, cette femme bientôt mère, pour eux, pas de place ici. Ceux-ci rougissent presque de demander un asile. Ce qui devrait être considéré comme déplacé dans la presse où se trouve la ville. Ils sont peinés de causer aux autres la peine de leur adresser un refus. Ils ne demandent que parce que c'est un devoir de demander. Et ils ne demandent nulle part deux fois. Bien des femmes de Bethléem regardent la future mère avec une bienveillance passagère. C'est la vue de sa grossesse avancée qui l'excite. Mais de toute façon, on ne peut pas les recevoir chez soi. Le crépuscule s'obscurcit. Marie et Joseph descendent de la colline. Ils trouvent une grotte qui sert d'étable, une sorte d'enfoncement qui procure deux places et un abri. Au-dessus d'eux, il y a les lumières, les chants et la musique. C'est le village qui en fait, car le dénombrement y a amené de nombreux voyageurs. C'est le temps propice pour faire une bonne affaire. Mais revenons à la grotte. Qu'est-ce que nous révèle la lanterne dans les mains de Saint Joseph? Quel ameublement particulier remarque le couple de Nazareth à l'intérieur? Est-ce que la grotte contient tout ce qu'il y a de plus convenable, de plus divin, de plus en harmonie avec le mystère qui va s'accomplir dans quelques instants? Non. Tout y est différent de ce que nous aurions imaginé. La lanterne éclaire la grotte. On y remarque la crèche, creusée dans le rocher, que l'usage a poli et noirci. Les parois à l'intérieur de la crèche sont revêtues de petites planches de bois. Ce sont elles qui forment la mangeoire proprement dite. Dedans, il y a une bonne couche de paille, paille toute nue. Viennent ensuite se loger l'âne et le bœuf, toute la fortune que le pauvre couple possède. L'âne qui a porté la jeune mère dans son voyage de Nazareth et le bœuf que Joseph avait amené pour vendre et subvenir aux frais du voyage. Enfin, le dernier trait de la grotte, bien qu'invisible, mais ressenti autant que les deux autres éléments, est le froid, froid excessif qui y règne. Crèche avec de la paille, animaux, froid, voilà l'ameublement du palais du roi que découvre la Sainte Vierge en arrivant dans la grotte. C'est là que Dieu passera les premiers instants de sa vie terrestre. Il y aurait de quoi nous déconcerter. Selon l'estimation commune des hommes, le Sauveur vient d'une manière qui n'est pas digne. Il commence pour se mettre dans une position qui ne convient pas à sa dignité. Voici les sentiments des hommes. Et quelles sont les pensées de l'Immaculée? Elle voit ici trois dispositions divines. Dispositions divines, car il n'y a pas de hasard dans les desseins divins. Notre-Dame y découvre tous les programmes du Fils de Dieu venant sur la terre. D'abord, la crèche. Son Fils, dans quelques instants, sera déposé dans une mangeoire, là où les bêtes de somme viennent chercher leur nourriture. Et pourquoi cela? Car l'homme, par son péché, est devenu comme un animal. Et Dieu deviendra un jour la nourriture des pécheurs repentants. Ils trouveront en lui le pain céleste qui changera leur vie. Dans cet humble berceau, l'intelligence de la Sainte Vierge voit aussi le symbole de délaissement du Messie. D'abord, l'indifférence et le rejet de son propre peuple. Celui-ci attendait son libérateur. Et lorsque le vrai Messie sera enfin venu, il deviendra pour eux une pierre de scandale plutôt qu'un sujet d'espérance. C'est ce qui annonce aussi à Notre-Dame la paille, la garniture du berceau, paille dure et piquante, sur laquelle l'enfant sera couché, et que Saint Joseph avait ramassé sous les pieds des animaux. Dans les tourments de la Passion, les hommes traiteront le Fils de la Vierge comme un vilain ver de terre, et non pas comme un homme. Ensuite viennent les animaux, l'âne et le bœuf. Il rappelle à Notre-Dame que son nouveau-né est aussi le Créateur. Et ces animaux, sans raison, vont suppléer à ce que devraient faire les animaux raisonnables, les hommes. L'âne et le bœuf ne refuseront pas la place, la présence de leur Créateur à leur côté. Ils le réchaufferont même par la chaleur de leur corps et de leur haleine. La société des animaux et la place qu'ils prêteront à Dieu pour qu'ils puissent naître indiquent aussi l'excessive pauvreté du Sauveur. Il ne lui suffit pas de se faire homme, il se fait homme pauvre. Il s'est choisi une mère pauvre, et il naîtra non dans la maison de ses parents, mais dans un lieu étranger et en voyage. Enfin, même le froid excessif de la grotte parle éminemment à la Sainte Vierge. Ce froid qui fera frissonner les membres délicats de son enfant, le froid qui remplira les fragiles poumons du petit Jésus, le froid qui glacera presque son sang dans ses veines, tout cela prédit que la vie du Rédempteur sera une vie de pénitence et de mortification. Dans ce froid, l'Immaculée voit aussi nos cœurs, cœurs froids comme une mer glaciale, comme les glaces du pôle Nord que les rayons du soleil éclairent à peine, et que le Sacré-Cœur de l'enfant Jésus vient réchauffer et enflammer. Voici les trois points de tous les programmes du Sauveur: le délaissement, la pauvreté et la mortification. Tous les trois, ils commencent avec le nouveau-né. Tous les trois l'accompagneront jusqu'à la tombe. Notre-Dame est déjà prête. La seule chose que Dieu attend pour sortir de son sein, c'est le désir de sa mère. Comme son seul désir a fait descendre Dieu dans son cœur immaculé. Bientôt, elle cessera d'être le tabernacle du Dieu caché. Bientôt, elle contemplera les perfections mêmes de Dieu, perfections dissimulées derrière les apparences d'un petit nourrisson. Celui qui ne sera âgé que d'une minute, elle le reconnaîtra comme éternel. Dans sa faiblesse, elle adorera sa toute-puissance. Et dans son petit, qui dort paisiblement, sa mère verra celui qui soutient toute chose dans son existence. Voici, chers fidèles, en quelques mots, ce que la Mère de Dieu repassait dans son cœur en cette nuit du premier Noël. Il est sûr qu'en comparaison, nos sentiments sont peu de choses. Mais le cœur maternel de Marie, de notre mère, est aussi notre modèle, modèle le plus parfait de la contemplation, et malgré sa perfection, le plus accessible pour nous tous. Prenons donc pour résolution de consacrer pendant ce temps de Noël quelques instants pour une bonne lecture. Sur notre table de presse, par exemple, vous trouverez de quoi nourrir votre âme. Comme Notre-Dame, recueillons précieusement les admirables leçons de l'enfant Jésus qui nous donne, celles du délaissement, de la pauvreté et de la mortification. Et après avoir mis tout cela dans notre esprit, Repassons-le souvent dans nos pensées, qu'il se grave profondément dans notre cœur, qu'il nous nourrisse et nous convertisse. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen.